Est-ce que vous m'entendez? Non. Je sais pas. Est-ce qu'il faut le remonter?
Tu veux que je le...
Voilà. Est-ce que ça marche comme ça, c'est mieux? Voilà. Parce qu'il y a toujours des personnes après les conférences, et ça ne manque pas, qui me disent « on n'a rien entendu ». Bon. Alors, comme ça, on est sûr au début que ça marche. Donc, bienvenue. Je voudrais vous parler ce matin des récits de résurrection dans les évangiles, les femmes au tombeau, plus exactement, mais aussi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi des scènes de femmes au tombeau qu'il ne faut pas oublier et qui anticipent, en quelque sorte, ce que nous allons entendre tous ces jours avec Pâques, les femmes qui viennent au tombeau. Alors d'abord, je voudrais dire quelques mots sur les textes d'évangiles sur les femmes au tombeau. Donc il y a évidemment quatre évangiles, donc quatre récits de femmes au tombeau. Et vous savez que dans les évangiles, ces récits sont différents selon les évangélistes. Alors il y a des petits malins qui disent « ah ben vous voyez bien, ils ne sont pas d'accord, donc finalement, est-ce que tout ça est bien vrai ?» Eh bien, j'ai un scoop ce matin, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que dans chaque évangéliste a choisi un angle d'attaque, ou plus exactement a un regard particulier et qui consonne avec le reste de son évangile. Par exemple, l'évangile de Matthieu, il y a deux femmes qui viennent au tombeau. Et vous savez que Matthieu met toujours des doubles partout. Quand Jésus guérit un aveugle dans les autres évangiles, il y a deux aveugles pour Matthieu. Matthieu double les doses. Pourquoi ? Entre autres pour dire il y a eu un qui a été guéri et puis un autre. Ah ben qui c'est l'autre ? Ben c'est toi. Voilà. Donc il y a deux femmes au tombeau, il y en a une qu'on connaît et l'autre qui c'est ? Ben c'est toi. Il y a quelque chose comme ça dans Matthieu, où les deux, c'est à côté de la place d'un témoin de l'époque, si vous voulez, il y a la place du témoin, toi, par exemple. Dans l'évangile de Luc, les femmes sont en groupe. Il y a beaucoup de femmes, il y a leur nom, et ça, c'est propre à Luc. Luc montre dans son évangile que les femmes sont là où il faut. Ça commence d'ailleurs comme ça, l'évangile de Luc. Hein, il y a Marie, l'Annonciation, mais avant il y a eu je perds un peu mes mots après une heure et quelques de confession. Il y a eu la femme de Zacharie, Élisabeth, il y aura la prophétesse Anne dès le début de Saint-Luc. Et puis, dans tout l'évangile, au chapitre 8, par exemple, on nous dit qu'il y avait 12 disciples et beaucoup de femmes. Alors, la Bible de Jérusalem, au moins une ancienne version, mais quelques femmes, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Mais non, l'évangile dit beaucoup de femmes. Donc, le matin de la résurrection, il y a beaucoup de femmes. Il y a tout un groupe, et le nom de quelques-unes, et puis tout un groupe, et ça, c'est propre à Luc. En fait, ce sont les femmes qui comprennent et qui font avancer les choses dans l'évangile de Luc, tout spécialement. L'évangile de Jean, vous savez, se focalise sur une personne, c'est Marie de Magdala. L'évangile précise qu'il y a des femmes à un moment, mais il n'empêche que cette précision, une fois donnée, on va se focaliser. C'est comme si Jean mettait le projecteur sur une femme, Marie de Magdala. Donc on sait qu'il y a les autres, l'évangile le dit, mais projecteur sur une et la rencontre de une avec le Christ, comme une invitation pour toutes les autres femmes de rencontrer le Christ ressuscité seul à seul avec lui, si vous voulez. Et puis il y a l'évangile de Marc, qui est mon préféré, mais on le lira ce soir, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui, même si j'aurais beaucoup à dire. Et ce soir, je me permettrai d'ajouter le dernier verset de l'évangile que toutes nos traductions liturgiques éliminent, parce que ce verset dit dans Marc, alors Marc, il y a un groupe de femmes, elles reviennent du tombeau, elles ont compris ce qui se passait, et elles ne dirent rien, car elles avaient peur. Alors, on ne met pas ce verset pour ne pas troubler le peuple chrétien. Je me permettrai de le lire ce soir, puisque c'est quand même la parole de Dieu et que l'évangile de Marc et Marc lui-même n'était pas totalement idiot. Donc, il faut prendre en compte ce qui est dit. Et on verra que c'est fabuleux. Elles se taisent, elles ne disent rien car elles avaient peur. C'est magnifique. C'est la crainte de Dieu. Et quand Dieu est là, dans la Bible, on commence par la boucler, on se tait, on n'a plus les mots habituels, qui est le baratin habituel, enfin des gens qui se taisent. Et l'annonce de l'évangile va sortir du silence de ces femmes, justement. Et donc nous y reviendrons cette nuit, donc revenez cette nuit, vous entendrez cet évangile de Marc. Donc je n'en parlerai pas plus ce matin. Donc ce que je dis dans cette introduction, c'est que pour la même scène, la même réalité, les femmes au tombeau et qui vont faire l'expérience du Christ ressuscité, donc ce sont les pionnières, il ne faut pas l'oublier, comme souvent dans la Bible, il y a beaucoup de livres bibliques qui commencent avec des femmes, des figures de femmes, donc au commencement il y a des femmes, au commencement de la résurrection il y a des femmes. Ces évangélistes donc vont nous montrer, justement par la diversité de leurs propos, on vient d'en parler, on se concentre sur une d'entre elles, ou on les prend en groupe, ou on les met par deux, et il y a à chaque fois des éléments différents. C'est-à-dire que ce sont autant de lumières, de coups de projecteur portés sur ce récit de la résurrection qui ne peut pas se dire en un mot. Il n'y a pas un récit des faits, il y a tellement de réalité et de mystère dans ce qui se passe qu'il faut au moins quatre récits pour donner toute l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a quatre évangiles. Vous savez, dans les premiers siècles chrétiens, il y a des petits malins qui ont essayé de mettre ensemble les quatre évangiles en disant ben, « Pourquoi quatre ? On va en faire un gros. » en mettant et ça ne va pas du tout, ça n'a pas tenu et personne n'a... Non, il nous faut des témoins qui ont chacun leur manière de nous montrer ce qui s'est passé dans la vie de Jésus en général, et puis dans cette scène particulière et décisive qu'est la résurrection avec les femmes qui viennent au tombeau. Donc tout ça est très important et invite nous autres, les lecteurs ou les écouteurs de la Bible, de travailler tout ça, d'entendre la résonance de chaque expérience de venue au tombeau, de rencontre avec le Christ ressuscité, et de comprendre que c'est riche, le Christ ressuscité, c'est pas tout est bien qui finit bien, il est ressuscité, bon, maintenant on fait la fête. Non, il y a une réalité profonde, mystérieuse à entendre, à contempler, et puis à vivre soi-même. Il y a quatre récits de résurrection pour nous dire quatre points de vue, mais toi-même, entre avec ton point de vue sur cette résurrection. Quelle est ton expérience, hein? Et ça, c'est très, très important dans la Bible, hein? Les textes ne sont pas là pour nous donner un rapport des faits, mais pour nous inviter à participer à ce qui nous est raconté. Hein, et c'est pour ça, je crois, que les chrétiens, souvent, les catholiques en tout cas, ne lisent pas beaucoup la Bible, parce qu'il faut qu'on nous donne des doctrines claires, précises, où on n'a pas trop rien à faire, sauf de la piété, mais s'engager soi-même, « il est ressuscité, c'est les femmes qui l'ont vu ». Ben non, c'est toi qui l'as vu. Et tant que tu n'as pas vu le Christ ressuscité dans ta vie, tu baratines. Alors, je voudrais dire quelques mots donc sur trois des évangiles. L'évangile de Marc, j'en parlerai si j'ose dire. Enfin, je me laisserai inspirer par cet évangile ce soir. Je voudrais dire un mot donc sur les autres évangiles, l'évangile de Matthieu, rapidement, avant de montrer que cette expérience de femme au tombeau parcourt aussi l'Ancien Testament depuis longtemps. Donc quelques mots quand même sur ces quatre expériences, d'abord en remarquant et en soulignant une fois de plus que ce sont les femmes qui sont les premiers témoins, hein, et qui, je le répète, hein, dans la Bible, sont souvent aux premières places. Soit dans les premiers chapitres d'un texte biblique, soit à l'inauguration d'une phase nouvelle de l'histoire. Hein, les femmes sont au commencement bien souvent dans la Bible. Ce serait tout un thème à développer. On ne va pas le faire maintenant. Mais là, dans cette fin d'évangile qui sont en fait un commencement, hein, et c'est très intéressant d'ailleurs au point de vue littéraire, moi je suis un prof de lettres à l'origine, mais les fins d'évangile sont à la fois des fins, si on veut, techniquement, littérairement, mais ce sont aussi des commencements. Hein, par exemple, l'évangile de Jean dit « c'était le matin, il y avait des ténèbres », et il faut vraiment traduire comme ça, et puis Marie-Madeleine va au tombeau. Et c'était le premier jour de la semaine, tôt le matin, il y avait encore des ténèbres. Premier jour de la semaine, jour 1, ténèbres, c'est le début de la Genèse. Le premier jour, Dieu crée la lumière et il y a eu la lumière dans les ténèbres, etc. Vous connaissez. Donc, les évangélistes vont jouer là-dessus. On est à la fin et pourtant c'est le commencement. Voilà. Et donc c'est très, très intéressant, hein, de lire ça comme ça. Le commencement de quoi, au fait ? Ben, le commencement de chacun d'entre nous avec ce qui vient de nous être raconté, c'est-à-dire toute la vie de Jésus et ce nouveau commencement qu'est la résurrection. La fin d'un évangile que tu as lu, c'est ton commencement à toi, avec lui. Et c'est très finement fait dans chacun des évangiles. Donc, quelques mots sur notre premier évangile, celui de Matthieu. Il y a deux femmes. Donc, je vous l'ai dit, Matthieu aime beaucoup doubler les doses. Hein, c'est toujours par deux, c'est souvent par deux dans Matthieu, parce que il y a la place de celui qui est en train de lire, le lecteur. C'est entre autres, hein, le but de ce procédé, de dire, ben, qui est l'autre témoin ? Ben, toi. Mais j'ai pas envie d'y aller. Ben, tu reviendras plus tard, mais en tout cas, on t'attend, hein, près du tombeau avec un autre guide qui va te conduire là. Alors, le début est très bien, je vous lis le début, hein, après le sabbat, je suis en Matthieu 28. Après le sabbat, au commencement du premier jour, vous voyez, au commencement, voilà, on est à la fin, mais c'est un commencement. Au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, ah c'est qui ? C'est toi, vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. Hein. Matthieu, vous savez, aime beaucoup les tremblements de terre. Hein. Ça, il faut que ça bouge dans Matthieu. Jésus, quand il meurt en croix dans Matthieu, la terre tremble. Et voilà, hein, c'est la vie et tout le tremblement, si j'ose dire. Bon. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est tout à fait incongru. Moi, je l'imagine avec sa cigarette. Ouais, moi, je roule la pierre, je m'assieds et puis j'attends. Mais c'est faux, hein, c'est pas dans le texte. Mais je l'imagine assez comme ça. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Donc il y a la garnison romaine hein, autour du tombeau. Pilate a pris ses précautions pour qu'on n'enlève pas le corps subrepticement. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où il gisait. » Alors c'est très beau, parce que c'est très vivant. Vous voyez, ceux qui sont les plus costauds, les plus armés, les gardes, tombent comme morts. Et celles qu'on pourrait dire les plus fragiles, les femmes un peu perdues dans ce monde, ce sont les premiers témoins. Hein, donc, le n'est pas costaud qui on croit dans la Bible. Ça, c'est très important aussi. Alors, j'aime beaucoup le début, je m'arrête juste là-dessus, il faudrait parler uniquement de l'évangile de Matthieu, mais voilà, on va essayer de faire un parcours plus vaste. Mais quand même, au début, il se fit un grand tremblement de terre, l'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alors moi, j'aime beaucoup dans la Bible, quand il y a un épisode qui nous est donné, un geste en particulier, cette année je fais un cours sur les gestes dans la Bible, on n'a pas encore parlé de ce geste-là, mais rouler une pierre dans la Bible, quel est le premier rouleur de pierre ? Jacob, exactement, dans la Genèse, au chapitre 28, hein, Jacob qui a dû fuir sa famille, hein, parce que les problèmes de famille, c'est de toujours, hein, donc a dû fuir sa famille, notamment son frère qui voulait le tuer, hein, c'était l'époque où tout allait bien dans les familles, mais enfin, quand même. Donc, Jacob a dû fuir les siens et il est parti seul, il lui est arrivé une aventure étonnante au chapitre 27, hein, une échelle avec des anges qui montent et descendent. Et puis Jacob arrive et il sait qu'il doit se réfugier chez un oncle qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais vu, Laban, et que cet oncle a des filles. Et donc Jacob s'arrête un moment, demande aux gens qui sont là, aux bergers, où on est. Ils disent, bah, tu es dans la propriété de Laban. Ah bon, très bien. Une de ses filles va arriver tout à l'heure, elle est bergère, elle va venir faire boire le troupeau. Et cette fille, c'est Rachel, qui est magnifique, qui arrive avec son troupeau. Mais sur le puits, on a mis une grosse pierre hein, pour ne pas que ça s'évapore trop vite et pour garder la fraîcheur. Et cette frêle Rachel ne peut pas bouger la pierre. Donc Jacob arrive, il roule la pierre et elle peut faire boire son troupeau. Et puis, tout de suite après, elle dit « Je suis Rachel et Jacob, c'est sa cousine, mais il ne la connaît pas. Bientôt, il va l'épouser. Il en est amoureux tout de suite et il se met à pleurer. » C'est très beau parce qu'il bouge la pierre, il roule la pierre pour qu'on puisse accéder à l'eau et lui-même verse de l'eau. Il y a quelque chose de très beau dans ce... Mais voilà, Jacob, c'est le premier rouleur de pierre et vous l'avez entendu dans ce que j'ai raconté de son histoire, que vous pouvez lire à tête reposé en méditant en Genèse 28, Jacob va parler à Rachel. Et ici, on a le même procédé, si j'ose dire. Un ange rouleur de pierre et qui va parler aux femmes, aux deux qui sont là. Donc, il y a toute une ambiance. Jacob et sa rencontre avec Rachel derrière, et c'est très important. C'est très important pourquoi ? Parce que ça nous met, voyez, quand on a cette mémoire biblique, ce qui est pas si difficile à acquérir, ça nous met sur un registre particulier. Jacob a roulé la pierre, a rencontré Rachel qui va devenir sa femme bien-aimée. Il va avoir des enfants après une très longue période de stérilité avec Rachel, Jacob, puis Joseph, Benjamin, et c'est toute une histoire. Mais ça nous met dans une ambiance, ce rappel de Jacob et de la rencontre avec Rachel, une ambiance nuptiale, une ambiance de noces. Souvenons-nous que, juste avant la Passion, dans notre évangile de Matthieu où nous sommes, Jésus a raconté une parabole, c'était au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, et dans cette parabole, il se présente lui-même comme l'époux qui vient. Vous vous souvenez, ces 10 jeunes filles qui attendent l'époux, 5 ont pris de l'huile pour tenir toute la nuit avec leur lampe allumée, 5 autres sont là parce qu'elles ont, avec un peu d'huile, elles ont dit qu'il doit arriver à 17h30, on est là jusqu'à 17h30, c'est moi qui ajoute le détail horaire, mais voilà, son train arrive à ce moment-là, on est là juste pour quand il arrive. Et puis il y a un retard, l'époux vient bien plus tard dans la nuit, et celles qui n'ont pas assez d'huile disent « mais où est-ce qu'on peut en trouver ?» Et les autres disent « allez en chercher au marchand, il est tard, mais voilà. » Et par contre, celles qui ont amené leur bidon d'huile pour attendre aussi longtemps qu'il le fallait sont prêtes à recevoir l'époux qui vient. Et c'est comme ça que le Christ se présente, c'est une de ses dernières paroles avant la Passion. Donc c'est intéressant de voir qu'après la Passion, la rencontre du Christ est préparée comme la rencontre de l'époux qui vient, le nouveau Jacob qui va rencontrer deux Rachel, en quelque sorte, venus là où on a roulé la pierre. Et donc les femmes qui ont été averties par l'ange, le rouleur de pierre, sont prêtes à recevoir Jésus. On a ça tout de suite. Quittant vite le tombeau, attendez, c'est où ça ? Elles quittent le tombeau, verset 8, en grande joie. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : je vous salue. Alors, comme il y a deux Marie, on aurait presque attendu qu'ils mettent au pluriel le nom Marie. Je vous salue, Marie. Bon, mais il ne l'a pas fait. Je vous salue. Elles s'approchèrent de lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront, etc. Donc, il y a une ambiance de rencontre nuptiale. L'époux qui vient est accueilli par des femmes. Hein, et ces deux sont la promesse de la rencontre de bien d'autres avec lui. Hein, mais il y a toute cette ambiance avec cette référence profonde à la rencontre de Jacob et de Rachel, le rouleur de pierre, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Il faudrait dire beaucoup plus de choses, mais je voudrais dire un petit mot. Donc je saute l'évangile de Marc que nous lirons ce soir, cette nuit, et qui est fabuleux. Et je voudrais passer à la fin de l'évangile de Luc. Alors ce sont des évangiles que nous lirons aussi pendant la Semaine Sainte, au moins en partie. Mais j'ai remarqué que alors que les femmes sont prépondérantes, les lectures liturgiques mettent beaucoup l'accent sur les hommes. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Donc la fin de l'évangile de Luc, les femmes au tombeau, là, elles sont en groupe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Luc mentionne souvent les nombreuses femmes. Au début du chapitre 8 de Saint Luc, il insiste sur ce terme. Elles sont nombreuses qui accompagnent Jésus. C'est très intéressant parce qu'il y a les disciples hommes, et puis il y a toutes ces femmes qui, en général, ont une longueur d'avance sur les disciples, c'est-à-dire qui comprennent mieux, plus vite, et qui sont toujours les pionnières de ce que Jésus dit, fait, et c'est le cas ici dans notre chapitre 24 de l'évangile de Luc. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes viennent à la tombe en portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvent la pierre roulée, là encore devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. comme elles étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Alors on dit c'est des anges. Les anges, leur nom de code dans la Bible, c'est souvent homme. Allez vous y reconnaître. Donc quelquefois vous rencontrez un homme, c'est peut-être un ange. Attention, pas toujours. Elle voit deux hommes en vêtements éblouissants, donc ces vêtements montrent qu'ils sont d'un autre ordre que simplement humain. Saisie de crainte, elle baissait le visage vers la terre quand ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Et après, écoutez bien, « Rappelez-vous, mot à mot, c'est « faites mémoire ». De comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Alors, elles firent mémoire. Elles se rappelèrent, comme on traduit ici, ses paroles. Elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, etc., et les autres compagnes. Et c'est très important ce qui vient de se passer. C'est-à-dire là, elle ne voit pas Jésus, mais les deux hommes, les deux anges, leur disent « Souvenez-vous ». Mais « souvenez-vous », ce n'est pas « regarder son post-it ». Il a mis un post-it et il faut « Ah oui, je n'avais pas vu sur la porte du frigo, il y en a tellement ». Non, ce n'est pas ça. C'est un acte de mémoire. Le vocabulaire est très important dans ce texte. C'est « faites mémoire ». Et vous savez que dans la Bible et dans les évangiles en particulier, le « faire mémoire », ce n'est pas se rappeler du passé. C'est comprendre que le passé, apparemment, est présent. Et opérant maintenant. Donc ça veut dire que ces femmes portent en elles les paroles de Jésus. Jésus a plusieurs fois dit qu'il allait ressusciter. Les disciples n'ont jamais vraiment compris cela, on va le dire tout à l'heure. Mais elles font mémoire, c'est-à-dire ces paroles sont restées vivantes en elles. Et quand on leur dit « consultez les paroles qu'il vous a données », eh bien aussitôt elles les comprennent pleinement. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement elles se souviennent de trucs que Jésus leur a dit, ce n'est pas des trucs. Elles se souviennent d'une parole où Jésus disait, parlait de sa résurrection et elles comprennent. Et Luc nous dit, en quelque sorte, nous suggère, elles n'ont, alors je mets entre guillemets, pas besoin de voir Jésus ressuscité, parce qu'elles le contiennent en elles, elles contiennent sa parole, elles ont en elles la parole qu'il leur a dite et qui leur fait comprendre, qui le manifeste en quelque sorte devant elles. Vous voyez, c'est très beau parce que dans Luc, si on lit exactement le texte, les femmes sont enceintes de la parole, elles portent en elles le Verbe, qui n'est pas seulement des choses que Jésus a dites, mais qui est Jésus lui-même. Il est le Verbe, comme dira saint Jean. Et donc, c'est très fort dans Luc, puisque le début de l'évangile de Luc nous montre Marie enceinte de Jésus, et la fin nous montre les femmes enceintes de Jésus, du Verbe, en quelque sorte, de la parole. Et Luc dit, en quelque sorte, elles n'ont pas besoin de voir Jésus, il est en elles déjà. Donc c'est une expérience. Alors tout ça, ce sont des expériences qui doivent s'agencer entre elles, mais chacun met l'accent, met la lumière sur un aspect essentiel de cette rencontre. Vous voyez, en plus, le tombeau, dans Luc, il appelle ça le mnémon ou mnestérion, je ne sais plus. En tout cas, un tombeau en grec, c'est un lieu de mémoire. Et les anges, les deux hommes, disent aux femmes, faites mémoire des paroles. On passe du mémorial de mort, le tombeau, au mémorial vivant qu'elle porte en elle, la parole de Jésus vivant. Et c'est très, très important, c'est une expérience renversante. Donc, elle porte cette expérience, elle raconte cette expérience aux disciples, les femmes. Et, alors pour moi, le verset le plus violent de la Bible, le voilà. « Aux yeux des disciples, ces paroles semblèrent un délire, et ils ne croyaient pas ces femmes. » Bon, le mot en grec est encore plus violent que ça, c'est du radotage de femmes, quoi, en quelque sorte. Et c'est terrible, hein. Vous voyez, donc, dans la Bible, les premières, les pionnières sont régulièrement des femmes. Et pour les hommes, c'est plus lent. Il y aura tous les disciples d'Emmaüs, il faudra tout un repas, toute une marche ensemble, etc. Et quand Jésus apparaîtra aux douze, ils diront, ah ben non, c'est pas sûr, etc. Bon, c'est étonnant. C'est à entendre. Alors, je dis un mot sur la fin de l'évangile de Jean. Alors, pas tout à fait la fin, puisqu'il y a un chapitre supplémentaire après la résurrection, avec Jésus qui va apparaître aux douze, et puis l'ami, le disciple qui a du mal à croire. Vous vous souvenez de tout cela. Mais je voudrais lire la scène. Alors, demain matin, nous lirons une partie de cette scène, le chapitre 20, demain, avec Marie qui va chercher les disciples. Ça, c'est la lecture de demain. Mais il faut continuer cette lecture et on la continue dans la semaine. Il y aura un autre jour de cette semaine sainte où nous lirons la suite, c'est-à-dire Marie qui va rencontrer Jésus au jardin. Alors vous savez que Jean, il insiste beaucoup sur les jardins. Le jardin de Gethsémanie et puis le jardin du tombeau, le jardin de la rencontre, le matin de sa résurrection. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il situe cette scène de la rencontre de Marie de Magdala au jardin avec Jésus le premier jour de la semaine à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre. En fait, le texte dit « alors qu'il y avait encore des ténèbres hein, ». On l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire pour Jean, je vais vite, il faudrait démontrer tout ça avant d'arriver à cette conclusion, mais en gros, vous verrez sans doute ce que je veux dire. Pour Jean, la résurrection, c'est le retour au commencement. Le commencement, Genèse 2, Dieu plante un jardin et y place un homme, Adam. Et puis, au bout d'un certain temps, l'homme cultive le jardin, il en est le jardinier, c'est vraiment l'ambiance, enfin ce qui est dit dans Genèse 2. Et au bout d'un certain temps, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il va, vous savez, bâtir, c'est le terme employé dans ce chapitre 2 de la Genèse, bâtir une femme à partir d'une côte prélevée sur Adam. Alors on peut dire cette femme ne vient qu'en second. En fait non, elle vient en premier parce que Adam, lui, comme les autres animaux, il a été créé à partir de la poussière du sol. Donc on peut dire c'est le premier humain ou le dernier animal, si on veut, au point de vue de sa création. La femme créée à partir de la chair et des os, c'est la première d'un ordre nouveau. Vous voyez, dans la Bible, est-ce qu'on est premier ou dernier? C'est toujours plus complexe qu'il ne paraît. Laissons cela de côté. Mais il y a, dans la rencontre de Jésus ressuscité et de Marie dans le jardin, le premier jour de la semaine, une fois que les ténèbres se sont dissipées, ces fameuses ténèbres dont on parle d'emblée dans la Bible, bien, c'est la rencontre du nouvel Adam et de sa nouvelle épouse, en quelque sorte, Marie de Magdala. Et vous savez que Marie met un temps pour reconnaître Jésus. Elle croit voir le jardinier. Il y a un très grand exégète suisse qui a dit, eh ben vous voyez, c'est une scène comique, elle n'a pas reconnu tout de suite Jésus. Non, ce n'est pas une scène comique. Marie fait quelque chose, vit une expérience essentielle. Elle croit voir le jardinier parfait, excellent, Adam, le nouvel Adam, le jardinier au jardin, oui. Et elle fait l'expérience que ce jardinier, c'est aussi le Fils de Dieu ressuscité. Donc c'est parfait. Elle fait, il n'y a pas, ah non, ce n'est pas le jardinier. Si, si, c'est le jardinier. C'est l'Adam premier, c'est bien lui au jardin. C'est lui qu'il faut d'abord rencontrer. Il est homme. Et puis, deuxième mouvement, mais il est aussi Dieu qui ressuscite. Donc c'est un sans faute absolu de Marie de Magdala qui est au bon endroit, au bon moment et fait absolument l'expérience qu'il faut faire. Il n'y a que des exégètes pour trouver que c'est bizarre. Alors, il faudrait bien sûr approfondir ça, mais c'est ce que je voulais dire sur cet évangile absolument étonnant. Alors, dans le temps qui reste, je voudrais évoquer quelques autres expériences, quelques autres scènes de femmes au tombeau dans l'Ancien Testament. Et je vais vous en donner une tout de suite. Alors évidemment, il faudrait, si c'était un cours, il faudrait partir du début, etc. Mais là, je voudrais être un peu plus libre de tout cela et partir du premier livre de Samuel, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 17. Voilà. 1 Samuel 17. De quoi est-il question ? Alors, là encore, je vais aller vite. Il faudrait passer sur ce chapitre 17 plusieurs dizaines d'heures, mais on va en passer 5 minutes. Le 1 Samuel 17, c'est l'épisode que tout le monde connaît, même si on ne l'a pas lu, même si on n'est pas chrétien, David et Goliath. Donc il y a en Israël un roi qui est aussi Messie, il a reçu l'onction, c'est le roi Saül. Et le roi Saül très vite va quitter Dieu en quelque sorte, ce Dieu qui lui a donné l'onction de roi en Israël et ce qui suppose que le roi marche avec Dieu en quelque sorte, se met au pas de Dieu. Eh bien, Saül, le roi, va se déconnecter, pour prendre un terme de notre époque, de Dieu. Et Dieu va dire à son prophète Samuel, écoute, il faut que tu ailles donner l'onction à un autre Messie, roi. Et j'en ai vu un, c'est un fils de Jessé à Bethléem, et ce sera David. C'est le chapitre 16, 1 Samuel 16. Donc du vivant de Saül, qui va encore vivre longtemps, il y a un autre Messie qui va être oint, c'est David. Et comme Saül va de plus en plus mal, il a des terreurs, etc., ses serviteurs lui disent « mais il faut quelqu'un pour te jouer de la musique », puisque la musicothérapie, c'est très célèbre et très important dans l'Antiquité. La musique est un des soins, une des thérapies connues dans l'Antiquité. Alors, les serviteurs disent « il faut que quelqu'un vienne, te joue de la harpe ». Et, oui, la musicothérapie. oui, on connaît la musique. Bon. Et donc, un serviteur dit, mais je connais un très bon musicien, c'est un fils de Jessé à Bethléem qui joue très bien. Et voilà, et on va faire venir David et il va aider Saül. Mais David lui-même a reçu l'onction à Bethléem et il est en fait le nouveau Messie qui va grandir à l'ombre de Saül, qui va très très vite le jalouser. Donc juste après cet épisode où David arrive pour jouer de la musique pour calmer le roi Saül, il y a un grand combat d'Israël contre les Philistins. Les Philistins, c'est les ennemis de toujours. C'est un peu comme dans les dessins animés, vous savez, le chat et la souris, ou les Philistins reçoivent un coup sur la tête par Israël, et hop, le lendemain, ils sont en pleine forme et plus nombreux que jamais, et ça reprend. Donc il y a des combats incessants. Et donc il y a un grand combat qui s'organise au chapitre 17, du premier livre de Samuel. C'est un chapitre, enfin, personnellement, je l'ai beaucoup travaillé. Il faudrait qu'on prenne une semaine pour faire un tout petit peu entendre quelque chose dans ce chapitre. Donc, je vais dire très rapidement les choses pour m'intéresser aux femmes au tombeau. Mais les Philistins, vous savez, c'est donc un peuple, ils habitent alors dans une région dont on parle beaucoup en ce moment. Les Philistins habitent la bande côtière d'Israël, sud-ouest, Gaza, c'est une très ancienne ville philistine, mais elle était déjà là bien avant, c'est une des plus anciennes villes de l'humanité, Gaza, et on n'en fait pas du bien en ce moment. Et les Philistins donc habitent toute cette bande côtière, Ashkelon jusqu'à Gaza. Et donc ce sont un peu les ennemis habituels, les voisins ennemis d'Israël, donc depuis le livre des Juges, le livre précédent. Il y a beaucoup de textes qui racontent les combats d'Israël contre les Philistins. Alors là, c'est très beau, c'est le chapitre 17, c'est présenté, il y a l'armée d'Israël très en ordre, l'armée des Philistins très en ordre, et puis il y a un Philistin plus grand que nature qui s'appelle Goliath et qui vient dire aux troupes d'Israël, écoutez, on ne va pas se battre comme d'habitude, choisissez-vous un homme parmi vous et qu'ils combattent contre moi. Et celui qui gagnera décidera du sort des deux armées. Si moi, le Philistin, je l'emporte sur votre champion, nous, nous dominerons dans la région et vous, les Israélites, vous serez nos esclaves. Et si vous, vous trouvez un homme, les Israélites, qui arrive à me combattre, ça sera l'inverse. Nous ferons allégeance et nous serons vos esclaves. Alors les hommes d'Israël ont très peur. C'est le texte biblique sans doute où il y a le plus le mot « homme ». Les hommes d'Israël, les hommes de guerre, les hommes, tout le monde est guerrier. Alors ça disparaît dans les traductions, hein, on traduit par « guerrier » ce qui est « homme de guerre ». Il y a des hommes partout. Bon, on se dit c'est facile, Goliath demande un homme, on va lui trouver un homme d'Israël. Ils sont grands, ils sont costauds, ils sont jeunes, ils sont fervents, ils combattent avec Dieu en principe. Et puis tous les hommes d'Israël ont très très peur. Et ça revient plusieurs fois. Ça, c'est toute une présentation. C'est très intéressant, les figures masculines dans la Bible. La Bible n'est pas très masculiniste, comme le sont certains groupes catholiques aujourd'hui. Les hommes, la Bible dit toujours « je demande à voir ». Bon, c'est des petites choses. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, vous savez, parce qu'on entend beaucoup, y compris dans l'Église catholique, des gens aujourd'hui qui veulent rétablir je ne sais quoi. Il faudrait qu'ils lisent 2-3 pages de Bible. Et comme les amener, je leur ferai un petit brushing biblique. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, David n'est pas du tout dans l'armée. C'est un petit gars, il est fils de Jessé à Bethléem et son père l'a envoyé, c'est le dernier de la famille, il a 7 grands frères, moi aussi je suis un petit dernier, donc David, l'histoire de David me parle. Et les grands frères sont à l'armée, ils sont soldats, sont des hommes, en fait ils ont très peur comme tout le monde. Et David lui est berger et il se trouve que le père de David dit à David, écoute, va porter de la nourriture à tes frères à l'armée, puis tu sais, salue bien leurs généraux, tout ça, il faut... Bon. Et David y va, et il arrive quand Goliath est en train de parler, en disant « cherchez-moi un homme, qu'il combatte avec moi ». Et David dit « mais il y a plein d'hommes ici, pourquoi personne n'y va ?» Et les gens disent « on a très très peur ». Ah bon. Et David dit il dit rien, il parle un peu, il interroge, et plusieurs hommes l'entraînent vers le roi Saül et disent « on a trouvé un gars qui veut combattre ». Et David dit « mais non, j'ai rien dit, mais en fait s'il le faut, j'y vais ». C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus ironique. Vous savez, la Bible est souvent très ironique vis-à-vis des grandes institutions, des hommes, des masculinistes, tout ça. Il y a beaucoup d'ironie dans la Bible qu'il faudrait entendre une fois ou l'autre, pour pas dire trop de sottises en ce moment, toutes ces affaires dans l'Église. Bon, Et donc David, qui est un petit berger, plus petit que les autres, tout le monde l'appelle le petit, hein, c'est le seul qu'on n'appelle jamais homme. On l'appelle le petit, le gamin, Nahar en hébreu, une fois l'ado, l'adolescent, à la fin, Elem en hébreu. Bon. Donc le seul qui n'est pas appelé homme, eh ben, c'est lui qui devient l'homme que Goliath veut rencontrer. Et Goliath, quand David arrive, donc Goliath c'est un géant, hein, il mesure près de 3 mètres de haut, il a une armure dernier cri, il a tous les gadgets technologiques de son époque, il a un porteur d'armes, enfin il a une cuirasse en bronze, ça rigole pas quand même Goliath. Et David, donc le petit, arrive lui avec sa musette de berger et il tire, vous savez, un caillou et une fronde. Et Goliath le regarde de toute sa hauteur, se moque de lui. Et tout ça se passe dans une vallée. C'est très intéressant. Les armées philistines et israélites sont sur une colline, chacune une colline différente. Et il y a une vallée profonde où le combat doit avoir lieu. C'est ce que David appelle dans les psaumes, quand il raconte cet épisode, la vallée de la mort. C'est le psaume 22. Bon. Que se passe-t-il ? Est-ce que ça va ? Mais si ça ne va pas, vous faites signe. Hein, vous ne dites pas après coup qu'on n'entend plus. Il faut remonter la bête. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Je monte. Excusez-moi. Je peux la tenir. Alors, j'éteins. Est-ce que ça marche ? Ah ! C'était juste pour vivre ce moment, vous savez, on n'entendait pas. Ah oui, bon. Pardon. Et donc, David descend dans la vallée de la mort, et vous savez comment ça se passe. On s'attendait à un combat singulier avec les armes de Goliath, etc. David envoie un caillou dans le front de Goliath, et Goliath tombe mort. Et puis s'ensuit toute une bataille, Israël se réveille, reprend courage, repousse les Philistins et David remonte de sa vallée et puis accompagne le mouvement. Et au chapitre suivant, chapitre 18, donc tout ce combat a eu lieu et grâce à David, Goliath a été anéanti et les Israélites ont repris la main sur les Philistins. Et David coupe la tête de Goliath et la porte à Jérusalem, ce qui est très étonnant puisque Jérusalem n'est pas prise, elle sera prise par David bien plus tard, des dizaines d'années plus tard. Hein, et la tête de Goliath à Jérusalem, pour moi, c'est le seul lieu du crâne à Jérusalem dont on parle dans l'Ancien Testament. Et je crois beaucoup que la crucifixion, c'est le Christ qui est encore plus haut que le plus grand qui existait sur la terre, ce Goliath. D'ailleurs, Golgotha et Goliath, il y a peut-être un petit écho à entendre aussi, mais voilà, ça c'est une parenthèse. Donc David revient de ce combat et au début du chapitre 18, le chapitre suivant, on nous dit au verset 6, donc 1 Samuel 18, 6, juste après ce combat, quand David revint après avoir abattu le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül au son des tambourins, des cris de joie et des sistres. Et les femmes qui s'ébattaient chantaient en chœur, Saül a abattu des mille et David des dizaines de mille. Saül en fut très irrité, etc. Mais vous avez vu la scène. On a dit à David, et Saül lui a fait remarquer, tu vas descendre dans cette vallée pour combattre Goliath, mais tu ne reviendras pas vivant. Et puis si David, qui vient de recevoir l'onction de Messie, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour succéder à Saül, qui vient juste de recevoir l'onction de Messie en 1 Samuel 16, c'est ce même David qui est venu à l'armée apporter de la nourriture à ses frères, et puis il s'est trouvé qu'il a combattu Goliath au fond de la vallée de la mort, et on lui a dit « mais tu ne vas pas en sortir vivant ». Eh bien si, le Messie sort vivant de la vallée de la mort et les femmes viennent l'accueillir. Ça vous rappelle rien, ça, comme mise en scène, c'est les femmes au tombeau. C'est exactement, les évangélistes s'inspirent évidemment de cette scène fondamentale. Le Messie David et dans le cas de Jésus, le Messie fils de David, comme il s'intitule lui-même, et les femmes qui viennent acclamer David, qui n'est pas mort, qui est remonté de la vallée de la mort, qui est sorti de ce creux en terre d'où il devait mourir et qui est revenu parmi les vivants, vainqueur. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose de très important dans cette scène, hein, David et Goliath. Souvent, on voit ça d'un point de vue souriant, bon, on connaît l'histoire, mais quand vous la lisez vraiment, c'est toujours souriant, mais c'est d'une profondeur étonnante dans tous les versets. Je dis une chose aussi, la danse des femmes. Alors, pour exprimer ces femmes qui dansent, elles viennent en faisant des danses. Le mot danse, il y a un vocabulaire assez riche de la danse dans la Bible, mais pour ces femmes, et à 4 ou 5 reprises dans la Bible, essentiellement pour les femmes, le mot hébreu c'est mechola. Mechola. En hébreu, c'est la racine chul qui signifie accoucher. Chul, c'est les gestes de l'enfantement. C'est tous les gestes de l'accouchement. Hein, vous savez que dans l'Antiquité, les femmes accouchent plutôt debout ou inclinées. Quelqu'un les tient en arrière. Et toute la gestuelle dont les prophètes parlent, hein, à plusieurs reprises de l'enfantement, elle est comme mise en danse, la mechola, donc la danse de l'accouchement. On pourrait presque la traduire comme ça. Ça veut dire que ces femmes disent, par cette danse qui exprime l'accouchement, un fils est né, un sauveur est né. Alors, il était déjà né, David, mais il est né de la mort prévue pour lui. Donc, il y a quelque chose de très profond dans cette danse. Ce n'est pas n'importe quelle danse. C'est une danse qui salue une nouveauté. Qui salue, même si David est déjà là, il est né une première fois, mais c'est comme s'il était né de nouveau, en quelque sorte, à une vie nouvelle, et on danse et on chante, et notamment les femmes, c'est toujours en l'honneur de Dieu. C'est toujours, le chant et les danses dans l'Antiquité ne sont jamais, jamais profanes. Hein. C'est toujours lié au culte qu'on rend à Dieu. Donc cette danse religieuse, sacrée, accueille un David né de nouveau, lui qui vient de recevoir l'onction de Messie. On le disait mort au fond de la vallée de la mort, mais il est vivant. Bon, l'Ancien Testament dit déjà des petites choses assez importantes, comme vous le sentez. Hein, voilà. Alors je voudrais, j'ai plus beaucoup de temps, et on a à peine commencé là, mais ça fait rien. Je voudrais évoquer une autre danse avec le même nom des femmes pour accueillir un enfantement. Et là, c'est l'enfantement d'un peuple. C'est le passage de la mer Rouge. Donc là, je vais en arrière, dans Genèse 14, hein, c'est le grand chapitre, le passage de la mer Rouge, on va y venir. Et puis le chapitre 15, où il y a un chant de Moïse, de victoire. On a passé la mer Rouge, on a échappé aux Égyptiens. Et il y aura le chant de sa sœur Myriam et de toutes les femmes, et je voudrais en venir là. Mais je rappelle l'ambiance. Vous savez, les Hébreux, c'est ce qu'on fête en ce moment, en fait, hein, et ce que les Juifs fêtent quand ils fêtent Pâques, Pessah, on fête la sortie d'Égypte là où on était, où les Hébreux étaient considérés comme des esclaves, asservis par le et écrasés sous le travail, et ils ont, en sortant d'Égypte, ils ont acquis leur liberté. Vous savez qu'ils se sont heurtés à cette étendue d'eau qu'on appelle dans nos traductions la mer Rouge, la mer des jonques, en fait, et ils se demandent comment ils vont la traverser. Et par un vent d'est, etc., vous connaissez l'histoire, et sans doute relirons-nous ce texte ce soir pendant la veillée pascale, puisque c'est vraiment ça, Pâques, c'est la traversée. Hein, la mer Rouge va s'écarter de deux côtés, et le peuple va passer au milieu. Donc Moïse va chanter un chant de victoire, et les femmes... Fin du chapitre 15, sous la direction de Myriam, sœur de Moïse, vont chanter, elles aussi, un chant de victoire. Mais il faut s'imaginer la mer Rouge qui s'écarte et dans l'étroit couloir du milieu, un peuple va naître. Ces Hébreux qui étaient dispersés en Égypte, qui étaient écrasés sous le poids du travail, c'est un peuple qui naît, c'est absolument... une gestuelle de naissance. Dans l'étroit conduit, un peuple va naître, le corps du peuple passe et va être accueilli par des femmes qui chantent, des accoucheuses qui vont danser la merola, la danse de l'accouchement. Et voici ce que l'on dit à la fin du chapitre 15 de l'Exode, donc du livre de l'Exode. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin, toutes les femmes sortirent à sa suite, voyez, même mise en scène que pour David, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna ce chant, « Chantez le Seigneur, car il a fait un coup d'éclat, cheval et cavalier, en mer il les jeta. » Donc c'est les chevaux et les cavaliers d'Égypte, vous savez, qui poursuivaient Israël, et Israël est né. Un statut nouveau, ils ne sont plus esclaves, et vraiment toute la mise en scène de cet étroit goulet par lequel ils sont passés, c'est vraiment une mise en scène avec des femmes qui les accueillent, les femmes d'Israël. Alors elles, où sont-elles passées? C'est une bonne question, et j'ai un collègue qui a travaillé là-dessus et qui dit des choses étonnantes, c'est-à-dire les femmes passent toujours d'abord, c'est toujours ça. Mais voyez, c'est pas pour faire être plaisant pour les femmes que je dis ça. Il y a quelque chose de théologique dans la Bible, les femmes au commencement, hein, c'est très important. Et vous voyez, donc il y a là encore une scène de naissance avec cette danse, la merola, la danse de l'accouchement, et des femmes aux premières loges pour accueillir ceux qu'on tenait pour morts. Pharaon disait, ben, ils vont tous mourir dans cette mer. Eh bien non, ils ne sont pas morts. Ils sont ressuscités, si je peux dire. Est-ce que je peux encore dire une chose, ou c'est trop, le temps est court? Encore une chose? Si vous avez affaire, partez sans autre, comme on dit en Suisse. Je voudrais évoquer, alors non pas une femme qui vient au tombeau, mais un tombeau de femme qui est sans doute une des plus puissantes sources de vie de l'Ancien Testament. C'est au chapitre 35 de la Genèse, donc vraiment on remonte le courant, on va vers le commencement. Au chapitre 35 de la Genèse, c'est le moment où Jacob, qui avait quitté sa famille bien des années auparavant, on en a parlé tout à l'heure, hein, quand il a rencontré Rachel, donc vous savez qu'il a dû épouser la sœur de Rachel, Léa. C'est le beau-père qui a fait croire que c'était Rachel, mais qui, au dernier moment, dans la nuit de noces, dans la sombre nuit, a mis Léa à la place de Rachel. Et il y a ce très beau verset de la Bible, « Et au matin, voici, c'était Léa. » Bon, Non, mais la Bible, c'est plein d'humour. C'est pour ça que je ne comprends pas que les chrétiens ne la lisent pas plus et ne soient pas plus pétillants. Parce que, non, mais c'est vrai, c'est toujours le truc, oui, il faut tout remettre en ordre. Non, il faut du désordre dans la Bible. Bon, passons. Mais, Jacob va devoir travailler 20 ans gratuitement pour son beau-père pour pouvoir épouser Rachel. Et il se trouve que Rachel, qui l'aime, et Rachel aime Jacob, ils ne vont pas avoir d'enfants pendant très longtemps. Et puis Rachel va essayer plein de choses, et puis finalement, elle va être enceinte. C'est le chapitre 30. Je vous conseille beaucoup ce chapitre 30 de la Genèse, où il y a la naissance de tous les enfants de Jacob et de ses deux épouses, y compris les servantes, parce qu'on est une époque où, quand on a une servante, on donne aussi sa servante à son mari. Voilà, faites de la pastorale familiale avec la Bible, vous m'en direz des nouvelles. Et donc, non, mais c'est vrai, on dit aujourd'hui, on fait des trucs, on n'a jamais fait ça. Sortez un petit peu votre cocon, remontez un petit peu le temps, puis vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, et voilà. Mais passons. Vous savez, il y aurait beaucoup de choses à dire à certains chrétiens, mais Bible en main, pas pour accabler, pour dire, mais on va un peu se calmer, quoi. Hein, voilà. Bon. Et donc Rachel va avoir un premier fils, c'est Joseph, donc c'est très beau, c'est la fin du chapitre 30, c'est je crois Genèse 30, 22 et dans ces eaux-là. Et elle va dire en enfantant de son premier fils, alors qu'elle a mis longtemps à l'avoir, que le Seigneur m'en ajoute un autre. Alors il faudrait longuement parler tout ça. Rachel, c'est celle qui a compris que Dieu non seulement donne la vie, mais qu'il va la donner encore. Et ça, c'est une parole sur Dieu qui est absolument essentielle dans la Bible. Dieu n'est pas celui qui donne, c'est celui qui donnera encore, en plus, un autre. Pensez dans l'évangile de Jean à la scène du calvaire. Jésus, on croit qu'il meurt. En fait, il passe à son père, comme le dit l'évangile de Jean. Et puis sa mère à ses pieds, on croit qu'elle est maintenant, elle n'a plus de fils. Non, son fils Jésus passe à son père. Et que dit Jésus à sa mère en désignant Jean ? Voici ton fils. Voyez, un fils qui passe vers le père, Jésus, et un deuxième fils, Rachel. Ça, c'est le mouvement Rachel. C'est je ne pouvais pas avoir d'enfant, puis j'en ai eu un, et en ayant un, j'ai compris qui était Dieu. Il va encore donner. Et il y en aura un deuxième. Alors, ce deuxième fils, c'est Benjamin, le petit dernier, qui va naître au chapitre, 45 de la Genèse. C'est avant ça, pardon. C'est 30. Excusez-moi, hein, c'est 35. Voilà. Excusez-moi, donc c'est le chapitre 35 de la Genèse. Donc Jacob et tous les siens repartent en terre promise. Ses femmes et ses enfants n'ont jamais vu cette terre. Et Jacob, après plus de 20 ans, va y revenir. Et qu'est-ce qui va se passer en arrivant en terre promise? Eh bien, Rachel va à nouveau enfanter et mourir en donnant naissance à un deuxième fils, ce fameux deuxième fils qu'elle avait comme prophétisé. Je lis le verset et puis on s'arrêtera dans 2 minutes, c'est promis. Donc je suis en Genèse 45, verset 16. Donc Jacob et toutes ses femmes et enfants, ils quittèrent Bethel, donc au nord d'Israël. Il y avait encore une certaine distance avant d'arriver à Éphrata, quand Rachel enfanta. Ses couches furent pénibles. Or, comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as un fils de plus. Que Dieu m'accorde un autre fils. » Le mot à mot, c'est « Tu as un autre fils. » Voilà. Dans son dernier souffle, au moment de mourir, elle l'appela Ben-Oni, ça veut dire « fils de ma douleur », mais son père l'appela Benjamin, Benyamin, fils de ma droite. Rachel mourut et fut enterrée sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Vous voyez, souvent je demande en cours, avant Noël, quelle est la première mention de Bethléem dans la Bible et qu'est-ce qui s'y passe ? Genèse, naissance d'un petit garçon. ça ne vous rappelle rien quand Jésus naît à Bethléem? Bien sûr, il vient, puis il y aura David aussi qui va naître à Bethléem. Bon, Benjamin naît à Bethléem et Jacob érigea une stèle sur la tombe de Rachel. C'est la stèle de la tombe de Rachel aujourd'hui encore. Et je voudrais dire deux mots simplement là-dessus. Ce tombeau de Rachel, donc femme au tombeau, elle est mise au tombeau, mais elle est morte en affirmant la vie de Dieu. Il lui a donné un fils, à elle qui n'avait pas d'enfant, Joseph. Elle a prophétisé que Dieu lui donnerait un autre fils, lui ajouterait un fils, et c'est ce qui va se passer. En mourant, elle enfante un fils, qui est Benjamin. Ça veut dire que le tombeau de Rachel, c'est celui qui incarne le premier dans la Bible qu'un tombeau peut donner la vie, en quelque sorte, que mort et vie sont liées au tombeau. La mère mourante, qui a fait une expérience de vie, elle ne pouvait avoir d'enfant, elle en a eu deux, elle est morte en enfantant le deuxième, mais est-elle morte? Alors, passons, et on va s'arrêter bientôt, et vraiment. Premier livre de Samuel, chapitre 10. C'est l'onction du premier Messie d'Israël. Le premier roi Messie, c'est Saül. C'est toute une histoire qu'il faut lire au chapitre 9, 1 Samuel 9 et 1 Samuel 10. Et il reçoit l'onction de la part de Samuel. Donc c'est le tout début du chapitre 10 de 1 Samuel. Et Samuel lui dit, voilà, tu as reçu l'onction, tu es maintenant le roi d'Israël, le Messie, voulu par Dieu. Tu te poses sans doute des questions parce que tu es arrivé hier et Saül était en train de rechercher des ânesses perdues, le troupeau de son père, il ne s'attendait pas du tout à être Messie. Donc Samuel, le prophète qui lui a donné l'onction, lui dit, tu te poses sans doute des questions, eh bien rassure-toi, tu as bien reçu l'onction messianique et tu vas rentrer chez ton père, mais tu vas passer par trois lieux, et je te les annonce déjà. Hein, c'est Dieu qui te fait ton chemin. Et le premier lieu où tu vas aller, où tu vas te retrouver, c'est le tombeau de Rachel. C'est intéressant. Le premier Messie d'Israël, le premier pas qu'il doit faire après son onction, c'est le tombeau de Rachel. Pourquoi ? Ben, parce que Saül, de la tribu de Benjamin, descend de ce dernier fils de Rachel, ce deuxième qu'elle a enfanté en mourant. Et c'est comme si le prophète Samuel disait à Saül, à qui il vient de donner l'onction, « Tu vas aller faire un pèlerinage d'abord, hein, juste après cette onction que je viens de te donner, au tombeau de Rachel, c'est-à-dire le tombeau qui, paradoxalement, annonce la vie d'un fils dont tu descends, Benjamin. Tu es à la énième génération de Benjamin. Va te souvenir que tu es né de la mort, en quelque sorte, d'une mère mourante qui, en plus, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et tu es né malgré tous ces obstacles et ta famille jusqu'à toi est née. » Donc le premier pas du premier Messie de l'histoire, un millier d'années avant le Christ, c'est aller au tombeau qui paradoxalement annonce la vie. Le petit Benjamin est né et a donné au bout de tant de générations le Messie Saül. Et puis si vous continuez, vous verrez que les deux autres étapes que Saül va faire avant de rentrer chez lui, c'est il va rencontrer des gens qui vont en pèlerinage au vieux sanctuaire de Bethel et qui apportent à Dieu du pain, du vin et des animaux de sacrifice. Donc le pain est consacré à Dieu, ils vont porter ce pain consacré à Dieu. Et dit Samuel à Saül, tu verras, ils vont te partager le pain avec toi. Donc le pain réservé à Dieu, voici ce que va recevoir Saül en deuxième étape. Troisième et dernière étape, dit Saül, avant d'arriver chez toi, chez ton père, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Ça ne vous rappelle rien, c'est un tombeau qui rappelle la vie, le pain de Dieu partagé aux hommes et l'Esprit qui descend. C'est toutes nos fins d'évangile, un peu dans le désordre, mais le pain de Dieu qui devient le pain des hommes, c'est la scène. Le tombeau qui, paradoxalement, rappelle la vie, le tombeau de Rachel, une femme au tombeau qui nous annonce la vie. Le troisièmement, l'esprit qui va descendre. Donc, dès le début, 1000 ans avant notre ère, avec ce premier Saül qui ne va pas très bien réussir son rôle de Messie, d'une certaine manière, tout est dit, et tout est dit notamment grâce aux femmes qui, depuis longtemps, balisent l'avancée du peuple de Dieu par le témoignage qu'elles donnent que Dieu est le Dieu de la vie. Amen.
Comme ça. Bien, je crois qu'au nom de tous, on peut te dire un tout grand merci. Si tout marche bien, nous avons... Si les enregistrements ont marché d'ici quelques jours pour ceux qui sont connectés, vous pourrez aller sur notre site pour réécouter les deux conférences. J'espère que tout a bien marché selon... Voilà. En tout cas, merci et bonne préparation à ce grand événement de ce soir, la vigile pascale. Et au fond de l'église, il y a une petite corbeille. Merci. Merci à toi. Je l'arrête.